VOA Afrique, les infos à Washington.
Eric Manirakiza, 12h à Washington, 16h temps universel. Présidentielle en Guinée, fin à Conakry de la convention nationale du RPG en arc-en-ciel. La coalition au pouvoir, une convention bouclée par l'investiture du président sortant Alpha Condé comme candidat du parti à l'élection du 11 octobre. De son côté, la commission électorale nationale indépendante, CENI, a annoncé l'augmentation du montant de la caution exigée des candidats ainsi que la hausse du plafond des dépenses de campagne multipliée par plus de 6. Jacques Aristide.
La caution est en effet passée à 800 millions de francs guinéens, alors que le montant global des dépenses pouvant être engagées par candidat ou par parti politique dans le cadre de la campagne électorale est plafonné à 20 milliards de francs guinéens. Lors de la présidentielle de 2010, remportée par le président Alpha Condé, la caution s'élevait à 400 millions et le plafond des dépenses de campagne à 3 milliards. Cette caution sera remboursée aux candidats qui auront obtenu au moins 5% des voix d'après la CENI. La date du premier tour de la présidentielle a été confirmée au 11 octobre par un décret présidentiel publié hier soir, à la veille de l'investiture du président Condé par le Rassemblement du peuple de Guinée comme son candidat. C'est l'opposant et ex-premier ministre Seydou d'Alain Diallo qui sera le principal rival du chef de l'État sortant lors de cette joute électorale.
Jacques Aristide, au Mali, un djihadiste proche du prédicateur islamiste radical malien Amadou Koufa et lié à l'Algérien Mouktar Belmouktar revendique l'attaque de vendredi 7 août contre un hôtel de Sévaré dans le centre du Mali, dans la région de Mopti. L'attaque a fait 13 morts, dont 5 employés de l'ONU. Avant cette revendication, les soupçons des enquêteurs maliens se portaient plutôt vers le FLM, le Front de Libération du Massina. Un ressortissant sénégalais de 50 ans est mort ce mardi dans la station balnéaire de Salou en Espagne en sautant du troisième étage d'un immeuble pour échapper à la police. La police perquisitionnait à l'aube 3 domiciles de personnes soupçonnées de vendre des artistes de contrefaçon dans la ville catalane de Salou, nord-est du pays, ont indiqué les autorités aujourd'hui dans un communiqué. Après ce décès, plus d'une centaine d'Africains se sont affrontés aux forces de l'ordre dans les rues de Salou. Les manifestants ont lancé des projectiles sur les policiers, caillassé des voitures de police et bloqué une voie ferrée avec des poubelles.
VOA Afrique en direct de Washington.
Le Rwanda envisage à s'attaquer au système de compétences universelles qu'il qualifie de néocolonialisme judiciaire. C'est ce qu'affirme Olivier Nduhungirehe, représentant du ministère rwandais des Affaires étrangères de la coopération, joint à Kigali par VOA Afrique. Cette réaction intervient après que la justice britannique ait prononcé un non-lieu dans l'affaire du général Emmanuel Kalenzi Karake, arrêté à Londres sur demande de l'Espagne.
La réaction du gouvernement rwandais a été une réaction de joie et de satisfaction. Parce que, comme on dit toujours, il n'y a pas de cas en fait, puisque ceci est un cas flagrant d'abus de la compétence universelle pour des motifs spécifiques. Donc le Rwanda a été satisfait par ces décisions.
Quelle est la suite à réserver à cette détention et est-ce que cette relaxation est-elle suffisante?
Le Rwanda, bien sûr, explore toutes les options, mais une chose est sûre, c'est que tous ces cas d'abus de compétences universelles par des pays, même africains, doivent cesser et qu'il y ait une relation de respect mutuel entre États, entre partenaires. Et donc, nous, on va continuer à nous battre contre cet abus, cette situation qu'on a appelée néocolonialisme judiciaire. Donc le Rwanda et l'Union africaine dans son ensemble ne pourra jamais accepter que cette situation persiste.
Olivier Nduhungirehe, représentant du ministère rwandais des Affaires étrangères et de la coopération, joint à Kigali. En République démocratique du Congo, les Nations Unies se disent très préoccupées de la disparition depuis samedi à Kinshasa d'un anarque militant activement dans le mouvement citoyen lutte pour le changement Lucha. Selon un communiqué de Lucha basé à Goma, capitale de la province du Nord Kivu dans l'est de la RDC, M. Matumo a disparu samedi après avoir participé à une réunion organisée par le Parlement des jeunes autour du concept de la citoyenneté. Le texte précise qu'il avait reçu la semaine dernière des appels suspects. Les ressortissants étrangers avaient jusqu'en juin dernier, date butoir fixée par le gouvernement de Libreville, nous sommes au Gabon, pour régulariser leur situation ou quitter le territoire gabonais. Depuis juin environ, 1000 Ouest-Africains en situation irrégulière ont été reconduites vers leur pays. La correspondance de Jean Rovis Dabani à Libreville.
Depuis quelques jours, la police se livre à des contrôles et expulse ceux qui n'auraient pas obtempéré. Longtemps considéré comme un Eldorado, le Gabon, avec une population de moins de 2 millions de personnes, accueillait jusqu'en juin de 100 à 150 000 étrangers sur son territoire. Depuis son lancement, le ministre de l'Intérieur, Guy Bertrand Mapangu, considère l'opération de régularisation comme un succès. Plus de 10 000 étrangers ont régularisé leur situation malgré le coût prohibitif des titres de séjour. 500 à 600 000 francs CFA selon les nationalités, sans compter le pourvoi glissé pour accélérer le travail de l'administration. M. Mapangu a également assuré dans un communiqué que tout a été organisé pour prévenir toute forme de dérapage. Avec ce départ précipité des ressortissants ouest-africains transitant par plusieurs pays pour rejoindre le leur, on a affleuré l'incident diplomatique. Certains pays d'Afrique de l'Ouest, comme le Sénégal, ne sont pas prêts d'oublier la réaction du gouvernement gabonais. L'ONG sénégalaise Horizon Sans Frontières a indiqué dans un communiqué que ce n'est pas la première fois que le Gabon maltraitait les ressortissants sénégalais sur son sol. M. Mapangu a nié farouchement ces accusations, expliquant que l'ambassadeur du Sénégal au Gabon avait bien assisté à l'opération de rapatriement. Selon le ministère de l'Intérieur, ces immigrants ont embarqué via le port de Libreville sur un bateau, battant pavillon camerounais jusqu'au port nigérien de Calabar, le plus proche de la frontière gabonaise.
En Égypte, le chef des frères musulmans, Mohamed Badi, condamné en Égypte dans plusieurs affaires, sera également jugé pour l'organisation d'un sit-in monstre en faveur de l'ex-président Mohamed Morsi à l'été 2013 sur la place Rabat à Al-Dawiya, au Caire, a annoncé aujourd'hui le parquet. Morgane Guiriec a les détails.
Dans cette nouvelle affaire impliquant M. Badier, on reproche également aux accusés d'avoir hérité et séquestré des citoyens et de les avoir torturés, mais aussi d'avoir bloqué des routes, restreint la liberté de circulation, entravé les transports publics, occupé et vandalisé des bâtiments publics et privés. M. Badi a été condamné à mort en juin aux côtés de M. Morsi pour des violences durant la révolte de 2011 qui chassa Hosni Moubarak du pouvoir. En avril, il avait également été condamné à mort dans un autre procès. Il a écopé de la prison à vie dans 5 autres affaires. Des dizaines de milliers de pro-Morsi ont été emprisonnés, tandis que des centaines ont été condamnés à mort dans des procès de masse expéditifs dénoncés par l'ONU.
Et dans le reste du monde, l'aviation turque a bombardé dans la nuit de lundi à mardi les repères des rebelles kurdes dans le sud-est de la Turquie en représailles à des attaques particulièrement meurtrières qui ont coûté la vie à 6 membres des forces de sécurité. Le Parlement irakien a approuvé aujourd'hui à l'unanimité, avec une célérité inhabituelle, des réformes majeures qui donnent au gouvernement les moyens de lutter contre la corruption endémique et d'améliorer les services publics après plusieurs semaines de contestation populaire. Au Japon, un premier réacteur nucléaire a été relancé ce matin, plus de 4 ans après l'accident de Fukushima qui a traumatisé la population et entraîné l'arrêt de toutes les centrales du pays depuis septembre 2013. L'organisation non gouvernementale Amnesty International doit décider mardi si elle va désormais défendre la dépénalisation du travail du sexe, client et proxénète compris, provoquant une intense controverse sur ce sujet qui divise en Europe. La Grèce et ses créanciens ont trouvé un accord tôt aujourd'hui en vue d'un troisième plan d'aide au pays d'au moins 82 milliards d'euros, ont annoncé des officiels grecs à l'issue d'une négociation marathon Toutefois, quelques détails restaient à régler en cours de journée. Au Yémen, le cri d'alarme du Comité international de la Croix-Rouge et du rapporteur des Nations Unies sur l'aggravation rapide de la situation humanitaire, appelant le monde à ouvrir les yeux sur ce qui se passe. Voilà, chers auditeurs, c'est ici que nous mettons en continent dans ce journal. Le prochain dans 50 minutes avec Eric Matelaza. À la présentation, restez à l'écoute de VOA Afrique. Au revoir.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.